profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous intéresserons aujourd'hui à une enquête ufologique qui nous tiendra toute l'émission avec le titre évocateur nous invitant au mystère « Les ovnis n'aiment pas la bombe ». Entendez, la bombe atomique et finalement tout ce qui touche au nucléaire non maîtrisé et défaillant. Les ovnis n'aiment pas trop la bombe. Allons donc. Le 7 mars 1977, deux officiers français, le commandant d'escadron Hervé Giraud, promu colonel depuis, et son navigateur, le capitaine Jean-Paul Abraham, sont en mission exercice-bombardement à bord d'un Mirage 4 porteur d'une bombe nucléaire. Il est 20h30. Il se trouve à la verticale de Chaumont, volant à une altitude de 9750 mètres et à une vitesse de 1000 km à l'heure, lorsqu'une lueur intense arrive soudain derrière eux, grossissant à vue d'œil. Elle est identique à celle d'un phare de reconnaissance de chasseur Mirage 3, témoigne Hervé Giraud. Le contrôleur radar dort-il ? L'objet continue de s'approcher au même niveau que nous. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un missile. Et ce truc est en train de nous bouffer carrément, à moins d'un kilomètre en secteur arrière, comme lors d'une passe de tir. Et il vole beaucoup plus vite que nous. Pilote et navigateur voient la même chose. Le truc est à présent sur leur droite, calé sur leur vitesse. Le commandant Giraud donne l'alerte au centre radar, décrit l'objet qui les a pris en chasse et les verrouille. Le contrôleur de la base de Contrexéville, Placide, leur répond de vérifier leur oxygène. C'est ce que la procédure lui intime de conseiller au pilote quand il donne l'impression de débloquer, le manque d'oxygénation du cerveau pouvant causer ce genre d'hallucination. Mais les deux officiers s'insurgent. Leur équipement n'a aucune défaillance, c'est son radar à lui qui est naze. Le contrôleur au sol le prend de haut, se porte garant de son écran, confirme qu'il n'y a absolument rien à la droite du Mirage 4. Tout aussi catégorique, les pilotes décrivent ce qu'ils voient. Un objet sans contour descriptible, nimbé d'une lueur sphérique blanche, intense mais non aveuglante. La station radar dément une nouvelle fois l'observation. Crispé sur leur commande, Giraud récupère son sang-froid. Il amorce brusquement un virage à droite. L'objet lumineux l'imite aussitôt, littéralement collé à sa trajectoire. « Ça dure 40 secondes », souligne-t-il. « Je vire sec, puis je ralentis mon virage et il part à une vitesse inouïe. » Le Mirage reprend alors son cap vers la base de Luxeuil. Mais 30 secondes plus tard, le truc est de retour. De nouveau à droite, à 3 heures. Il nous refait le même cinéma, poursuit le colonel Giraud. Et là, il arrive très près. J'ai une impression de forme de masse imposante, beaucoup plus grosse que mon Mirage. Je renverse légèrement. Et la lumière repart vers l'ouest en produisant une espèce de traînée avec une accélération phénoménale. Vitesse largement supersonique, sans que le moindre bang trouble le sommeil de la région survolée, comme le confirment les généraux et experts civils rédacteurs du rapport Cometa. Rapport Cometa qui a été commandée par le gouvernement. 35 ans après les faits, les deux pilotes se retrouvent devant la caméra d'Enquête extraordinaire diffusée sur M6. Et ils racontent cette incroyable rencontre en y ajoutant des détails et des ressentis omis dans leur témoignage auprès des enquêteurs du groupe Cometa. Ne peut-il s'agir d'un phénomène naturel ? Leur demande l'intervieweur Stéphane Alix. Non, répond le colonel Giraud. Les phénomènes naturels ne suivent pas un avion de chasse dans un virage à 180 degrés et par deux fois. En plus, cette chose volait à plus de 6000 km à l'heure, avec des accélérations de 20 à 30 G. Sachant que, soumis à une force de 14 G, un corps humain se disloque au bout de quelques secondes, il y a en effet un souci. Comment les pilotes ont-ils réagi sur le plan psychologique à ces deux contacts successifs? Le capitaine Abraham reconnaît, devant la caméra, avec la distance sereine que donne le recul, je cite, « La première fois, bon, ça va. Mais la deuxième, on se dit, il insiste le mec. Enfin, le mec, je sais pas comment dire, il insiste quoi. » C'est là tout le problème. En admettant qu'une intelligence soit aux commandes, sur place ou à distance, de cet engin lumineux, quelle intention peut-on lui prêter? À aucun moment, la présence n'a paru hostile, sans cesser toutefois de manifester avec insistance, comme le soulignait le capitaine Abraham, sa suprématie technologique. Sous-entendu, si je le voulais, rien ne m'empêcherait de te détruire. Ou de neutraliser la bombe nucléaire que tu serais susceptible de lâcher. Opération qui, on le verra plus loin, s'est déjà produite par le passé. Eh oui, aussi singulier soit-il, ce fait divers aérien doit être replacé dans un contexte plus large. Une série de démonstrations de force, d'intimidation et d'actions hostiles qui commença aux États-Unis en 1945, dès le premier essai nucléaire sur le site d'Alamogordo. Et même 3 ans plus tôt, pour certains historiens militaires, alors que les atomistes de Hitler et ceux de Roosevelt s'efforçaient d'être les premiers à concevoir la bombe atomique. C'est un fait. Les premiers ovnis ne datent pas de 1947 comme on le croit communément. C'est leur nom, de soucoupe volante, flying saucer, qui fut inventée par la presse américaine cette année-là, en même temps que leur synonyme, assiette à tarte, pie plate, qui ne connut pas la même fortune. Ces termes désignaient 9 engins spatiaux en forme de galets plats de 15 mètres, volant en formation comme des oies, en un mouvement sautillant analogue à celui d'une soucoupe ricochant sur l'eau. Pour reprendre la description du pilote Kenneth Arnold sur la radio KWRC. Mais ces galets avaient des ancêtres. Les Américains les appelaient des Foo Fighters, les Allemands des Krautballs. Il s'agissait de boules lumineuses de taille variable qui, préfigurant le truc qui harcelerait le Mirage 4 français en 1977, suivaient de manière apparemment intelligente les avions engagés dans les combats aériens de la Seconde Guerre mondiale. Les Yankees prenaient ces ronds de lumière pour des armes secrètes nazies, et les Allemands les croyaient, bien sûr, américains. Quand deux avions ennemis tiraient sur ces formes silencieuses qui s'interposaient entre eux, ils se détruisaient l'un l'autre. Apparemment invulnérables, les lumières inconnues semblaient se borner à une mission d'observation, a un rôle de présence dissuasive. Des casques bleus avant l'heure, venus d'ailleurs. Oui, ça peut prêter à sourire. Au sol, les états-majors tenaient ces feux follets sphériques pour une légende aérienne, un effet secondaire du manque d'oxygène dans les cockpits. Les plus lettrés les comparaient à ces boucliers ardents qui surveillaient dans le ciel certains combats des légions romaines, selon Pline l'Ancien et Julius Obsequens. Des hallucinations collectives, quoi. Le syndrome de la guerre des Gaules. Tout bascula le 24 février 1942. Cette nuit-là, les batteries anti-aériennes de Los Angeles tirèrent plus de 1400 obus en direction non pas d'une hypothétique lumière ronde, mais d'un gros ovni survolant lentement la ville à basse altitude. Ça, on ne vous l'a peut-être pas trop dit. Insensible au projectile, l'engin parcourut 30 km en une demi-heure, de Santa Monica à Long Beach, puis disparut sous les yeux de milliers de témoins à une vitesse sidérante. Durant ces quelques heures, que les historiens baptiseront avec une certaine emphase la bataille de Los Angeles, 6 morts en fait, 3 crises cardiaques chez les militaires et 3 victimes civiles dans un carambolage. La panique générale provoqua le plus grand cafouillage militaire qu'on ait jamais observé. Certains rapports d'état-major mentionnèrent la présence de 3 avions japonais, d'autres en comptèrent 10, 15, 50. D'autres encore observèrent un simple ballon météo. En fait, le suréclairage des projecteurs de la défense anti-aérienne et la fumée des canons fournissaient l'illusion de ce que les militaires avaient envie ou ordre de voir. Tout plutôt que cet avion circulaire et sans aile observé par les civils avant et après les tirs d'obus. La vérité, si l'on en croit le rapport final officiel de l'armée américaine, déclassifié en 1983 et consultable à la NARA, National Archives and Records Administration, la vérité est que les radars avaient détecté une seule cible aérienne non identifiée. Comme elle se révélait aussi lente qu'invulnérable aux obus, le secret défense, aussitôt décrété, encouragea tous les mensonges improvisés pour noyer le poisson volant, sans que les différentes unités militaires aient eu le loisir de se concerter. D'où ce cafouillage mémorable. En tout état de cause, vu la panique régnant dans la ville en plein blackout, autant faire peur aux gens avec des avions japonais invisibles plutôt qu'avec des vaisseaux extraterrestres observables, évidemment. D'autant que les services de renseignement avaient prévenu Los Angeles 2 jours plus tôt d'une possible attaque nippone. Voilà. C'était réglé. Quoi qu'il en soit, le haut commandement des États-Unis s'efforça de faire passer une pilule bien amère. Un engin inconnu avait survolé à son gré, en prenant tout son temps et sans pouvoir être intercepté ni abattu, les usines d'aviation militaire du secteur côtier de Santa Monica. Des prototypes de bombardiers adaptés à la future force nucléaire étaient-ils en construction dans ces hangars ? Rumeurs. Confirmations et démentis alternèrent après la guerre. Une chose est sûre. En cet hiver 1942, la faisabilité de la bombe atomique venait d'être annoncée au président Roosevelt, qui avait mis sur pied dans la plus grande opacité le projet Manhattan. Ce programme ultra-confidentiel avait été lancé sur la demande et d'après les travaux d'Albert Einstein, mais à son insu, car le patron du FBI, le très parano Edgar Hoover, le soupçonnait d'être un espion à la solde des soviétiques. L'élaboration de la bombe fut donc confiée à Robert Oppenheimer. Dès lors, les 3 bases top secrets où l'on concevait l'arme suprême et stockait le plutonium, Los Alamos, Oak Ridge, Hanford, furent régulièrement survolées, pour ne pas dire surveillées, par des escadrilles de soucoupes, assiettes à tarte et autres cigares. Et cela s'intensifia avec l'explosion test de Trinity, surnom de la première bombe atomique, le 16 juillet 1945 à Alamogordo. Alors pendant 2 ans, au cœur même de leur structure militaire, les États-Unis vont tout mettre en œuvre pour que personne n'associe le programme nucléaire avec les phénomènes aériens d'origine inconnue qui accompagnent sa réalisation. Mais suite à la vague d'OVNI sans précédent du mois de juin 1947, tandis que l'Union soviétique achève la mise au point de sa propre bombe A, qu'elle fera exploser 2 ans plus tard, un mémorandum du général Twining, patron de l'AMC, agence de recherche scientifique de l'US Air Force, confirme que ces phénomènes sont une réalité et non des visions ou des inventions. Le docteur Vannemar Bush, patron d'un groupe d'études secrets, concurrent de celui du général Twining, arrive à la même conclusion. Il existe une corrélation indiscutable entre le nucléaire et les apparitions d'engins non identifiés. Entre 1947 et 1952, 37 observations d'OVNI seront consignées au-dessus des bases de recherche atomique où s'élabore la future arme thermonucléaire, la bombe H, riposte des États-Unis à l'Union soviétique qui ne lui a pas laissé le monopole de la bombe A. Ces flying saucers, nouvelle génération, paraissent de plus en plus performants. Ils sont capables d'apparitions et de disparitions instantanées, peuvent se scinder en plusieurs objets distincts avant de fusionner à nouveau, anticiper toute manœuvre hostile à leur égard, comme si leur développement technique progressait au même rythme que les armes de destruction massive des deux grandes puissances mondiales. Il est à noter du reste que certains hauts responsables de la défense, comme le général Twining, évoquent l'hypothèse que ces UFO, Unidentified Flying Objects, comme on les appelle désormais, ce que les Français traduiront par OVNI, soient des engins américains ou soviétiques développés dans le cadre de projets hautement confidentiels, inconnus. Ouais. Inconnus des propres dirigeants de la défense américaine. C'est dire la nécessité de tenir le grand public en état de désinformation constante. Lui aussi. D'où la création de commissions plus ou moins officielles destinées à ridiculiser les ovnis ou à fournir de fausses preuves de leur existence afin de décrédibiliser ensuite les ufologues qui auront cru. Toute cette pagaille mentale, mélange d'étonnant de stratégies subtiles et d'amateurisme à deux balles, produira des patacas incontrôlables comme le dossier Roswell. Qu'un crash d'engin avec récupération de cadavres extraterrestres ait eu lieu ou non, le 2 juillet 1947, un fait est certain. Le Roswell Army Airfield, au-dessus duquel se multiplient les observations d'OVNI depuis un mois, abrite à l'époque l'unique escadrille de bombardiers atomiques du monde, le 509 Bomb Group. Et tandis que le gouvernement américain s'efforce de convaincre la planète en état de choc, vrai faux débris à l'appui que l'engin accidenté à Roswell n'est qu'un ballon météo, les incidents se multiplient. Jetons un œil sur l'inventaire dressé par le docteur Donald Johnson, qui a réactualisé la base de données UFO-4 créée par le docteur David Saunders à l'Université du Colorado à la fin des années 60. À partir de 150 000 rapports. Oui, chers auditeurs, vous avez bien entendu, 150 000 rapports. Et témoignages, Johnson recense entre 1945 et 2001 les cas présentant une corrélation significative entre la présence d'installations nucléaires et la fréquence d'observations d'OVNI et de rencontres rapprochées. Son étude statistique à la méthodologie critiquée du bout des doigts par les sites sceptiques qui la qualifient de pertinente et astucieuse de prime abord, dévoile des événements qui font froid dans le dos ou chaud au cœur suivant l'angle sous lequel on se place quant au devenir de notre planète. Dans les exemples qui vont suivre, je me réfère également aux ouvrages du français Jean-Claude Sidoun, l'un des rares enquêteurs civils à avoir participé aux travaux du groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, dépendant du Centre national d'études spatiales, et de Jean-Jacques Velasco, spécialiste en optique, ancien directeur du GEPAN et co-rédacteur du rapport Cometa sous la direction du général Letty. Toutes leurs sources d'informations sont des rapports militaires. Si l'on est libre de s'interroger sur l'exactitude de ces rapports ou leurs motivations cachées, on ne peut douter de leur provenance. Le 15 septembre 1964, à la base militaire de Vandenberg, Californie, le lieutenant Robert Jacobs, en charge de l'instrumentation photo-optique, filme le lancement d'une fusée Atlas F, porteuse d'une ogive nucléaire factice, et transfère le film au laboratoire du développement. Il n'a rien signalé de spécial durant le tournage. Il a placé sa caméra dans l'axe demandé et il protège ses yeux. Mais lorsque le film est projeté, les militaires découvrent avec stupeur que, quelques minutes après le décollage, un ovni apparaît dans le ciel et tire à quatre reprises sur l'ogive au moyen d'un rayon lumineux. Du vrai film. Trucage ajouté au développement par des plaisantins de l'US Air Force ou première preuve visuelle d'un acte de guerre préventive contre l'arme nucléaire. Aujourd'hui, professeur à la Bradley University de Chicago, le lieutenant Jacobs a observé le silence pendant 18 ans avant de violer le secret défense au terme de sa carrière militaire en 1982. Son récit est corroboré par le major Mansman, retraité lui aussi, qui analysa en 1964, image par image, le film projeté à la base aérienne de Vandenberg. L'histoire racontée par Jacobs est authentique. L'OVNI, un disque de forme classique, est entré dans le champ de la caméra avant d'émettre son rayon. Au point d'émission du faisceau, il semblait en lente rotation, comme pour être en mesure de tirer à partir d'une plateforme. Mais mon interprétation était peut-être influencée par mes expériences de combat aérien. Après coup, je regrette de n'avoir pu visionner le film plus de trois fois. Deux agents du gouvernement ont confisqué la pellicule et l'ont emportée dans un attaché case, évidemment. J'ai reçu l'ordre de considérer cet incident comme top secret. Le plus croustillant est à venir. Le 16 mars 1967, sur la base aérienne de Malmstrom, dans le Montana, les gardes observent d'étranges lumières zigzagant dans le ciel. En dehors de la base, des témoins civils aperçoivent clairement plusieurs ovnis. Au même instant, des problèmes techniques surviennent sur l'un des silos. 8 missiles nucléaires intercontinentaux se retrouvent subitement hors service. Du jamais vu. Tandis que les signaux d'alerte clignotent sur les tableaux de contrôle autour de l'inscription « Out of order », un commando de sécurité à l'extérieur se retrouve légèrement blessé par l'approche d'un ovni rougeoyant en forme de soucoupe. Déclaration démentie par la suite et retirée du rapport d'incident. Mais le lieutenant Robert Salas, en service sur le site, a pour sa part maintenu et publié un témoignage d'une précision rare que le recul a rendu plus catégorique encore. J'ai toujours eu l'impression que cet objet nous avait envoyé une sorte de message au sujet de nos armes nucléaires. Le public a le droit de savoir. Il est temps de dire qu'une partie de nos missiles intercontinentaux ont été rendus hors service pendant que des ovnis étaient observés dans les parages par des témoins on ne peut plus crédibles. Quel est le verdict de l'US Air Force après enquête ? C'est une surtension d'environ 10 volts dans le coupleur logique qui a fait tomber en panne le réseau électrique amenant les missiles du site à se diagnostiquer inaptes au lancement. D'accord. Mais quelle est la cause de cette surtension dans un réseau qu'on imagine sous haute surveillance, sachant que le coupleur est justement destiné à protéger le dit réseau contre la surtension? Pas de réponse de l'Air Force. Ce genre d'explication irrecevable, bricolée à la va-vite par les services de communication de l'armée, du même tonneau que l'OVNI de Roswell devenu par magie un ballon météo, a tout pour alimenter les thèses conspirationnistes. Est-ce le but? Au hasard de mes recherches, je viens de m'apercevoir que le même 16 mars 1967, à l'heure où se produisait cette attaque de surtension supposément extraterrestre contre la force de frappe américaine, le général André, chef du service de sécurité radiologique de l'armée française, communiquait au directeur des centres d'expérimentation les relevés de contamination radioactive suite aux essais nucléaires français en Polynésie durant la campagne 1966-1967. Sa lettre, aujourd'hui déclassifiée et consultable sur Internet, affirme en conclusion que ces essais n'ont fait courir aucun danger aux populations. On connaît les suites de ce mensonge d'État du 16 mars 1967. Une simple coïncidence de date, bien sûr. Mais Jung nous dirait qu'on n'a rien inventé de plus pratique que les coïncidences pour faire passer un message. Les coïncidences, les piqûres de rappel. Entre le 27 octobre et le 11 novembre 1975, la base de Malmstrom sera de nouveau survolée par des contrôleurs aériens, comme les surnommés en privé le général Twining le 7 novembre 1975, par exemple, un disque brillant aussi grand qu'un terrain de football est observé par de nombreux témoins, tandis que se modifient de manière aberrante les paramètres de guidage d'un escadron de missiles ICBM Minuteman. Le commandement militaire ne parle pas de surtension cette fois. Il envoie deux avions intercepteurs F-106 à la poursuite de l'OVNI, dont la présence est confirmée sur les radars, mais qui leur échappe par une brutale accélération. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines, ou de nos joies, suivant que l'on soit pro-nucléaire ou non. Le 27 septembre 2010, ouais, ça nous rapproche, à la conférence de presse du National Press Club à Washington, retransmise par la chaîne CNN, cet officier retraité de l'US Air Force en fait un point complet sur des dizaines de désactivations de missiles nucléaires par ondes électromagnétiques émanant d'OVNI. À titre personnel, je pense qu'ils ne sont pas de la planète Terre, a conclu le lieutenant Solas, dont le rapport sur l'incident de 1967 à la base de Malmstrom avait ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés beaucoup d'autres militaires, malgré les tentatives d'intimidation, la peur du ridicule et l'ordonnance militaire de 1953, punissant de 10 ans d'emprisonnement et de 10 000 dollars d'amende la divulgation non autorisée d'une observation d'OVNI. Ordonnance applicable aux militaires comme aux pilotes de compagnie civile et aux capitaines de la marine marchande. Sans oublier la publication du rapport Condon qui, en 1968, concluait, pour un montant de 500 000 dollars versé par le contribuable américain, que rien ne permettait d'établir jusqu'alors l'existence des ovnis et que d'autres études approfondies ne peuvent se justifier par l'espoir qu'elles pourraient faire progresser la science. Donc, acte. Sauf que la censure, on le sait, a tendance à stimuler la liberté d'expression. Nous allons faire une petite pause musicale, et après quoi nous parlerons plus spécialement de ce qui se passe en Europe. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Au plus profond des ondes, diffusée par CFM Radio. Aujourd'hui, bien, nous parlons de surveillance rapprochée, si on peut parler ainsi, d'objets non identifiés sur les centrales nucléaires et sur les silos de missiles intercontinentaux. Abordons donc maintenant ce qui se passe en Europe. L'Europe n'a pas été épargnée par les témoignages spontanés sur ces phénomènes officiellement inexistants. Outre la France et la Belgique, le Royaume-Uni a connu un joli harcèlement ufologique en 1980 pendant les vacances de Noël. Entre le 27 et le 30 décembre, les bases de Ben Waters et de Woodbridge dans le Suffolk ont été attaqués par un ovni qui tirait des rayons en direction du sol, comme on peut le lire dans le rapport du commandant de la base de Woodbridge, le lieutenant-colonel Charles Halt. Il sera précisé ultérieurement par Nick Pope, le responsable du bureau d'enquête sur les ovnis de Sa Majesté, que la cible de ces tirs de rayons était le bunker stockant des ogives nucléaires. Le général Charles Gabriel, commandant en chef de l'US Air Force en Europe, fut appelé à Woodbridge comme consultant afin d'évaluer et de gérer l'incident. Mais aucune explication liée à la surtension dans le cerveau du commandant de la base ne fut proposée à la presse qui s'enflammait sur le sujet. Le ministère se contenta de répondre aux journalistes que cet incident n'avait aucun intérêt pour la défense nationale. Ah bon ? La thèse officielle fut un canular monté par un ancien agent de sécurité militaire, Kevin Conde, qui déclara à la BBC qu'il avait voulu faire une bonne blague à ses collègues en jouant à l'OVNI avec sa Plymouth Volare, dont les feux de patrouille avaient illuminé la forêt de Rendlesham, séparant les bases militaires de Ben Waters et Woodbridge. Donc, problème réglé. Sauf que, dès 1983, le Freedom of Information Act avait obligé le gouvernement de Sa Majesté à mettre les rapports militaires à la disposition du public, rapports concernant notamment la nuit du 27 décembre 1980, l'observation d'un ovni au sol mesurant 3 mètres sur 2, sa séparation en 5 objets distincts qui s'envolèrent aussitôt. Les traces végétales et radioactives laissées dans la forêt et le bombardement lumineux du lendemain sur la base de Woodbridge. Et ce n'est pas le plus incroyable. D'après le colonel Halt, c'est grâce à cette agression extraterrestre qu'il a découvert que les États-Unis stockaient en secret, je dis bien en secret, des ogives nucléaires dans la partie américaine de la base anglaise qu'il dirigeait. Des ogives destinées à repousser l'armée rouge si elle envahissait l'Allemagne de l'Ouest. En l'occurrence, la réalité dépasse l'irrationnel. Ah ouais, c'est la combinaison des nations, tout ça. À maintes reprises, sans vouloir faire d'anthropomorphisme, des ovnis semblent ainsi avoir joué les gardiens de la paix. Mais la question reste ouverte. Quelles sont les intentions des extraterrestres s'ils existent, ou de ceux qui se font passer pour tels? Espionner nos avancées technologiques, étudier les faiblesses de notre arsenal nucléaire, le neutraliser pour éviter des catastrophes écologiques susceptibles de nous anéantir, ou de causer de graves préjudices à une planète qu'ils souhaitent conserver en bon état pour leur usage personnel? L'avenir nous dira tout et son contraire, comme à l'accoutumée sur un sujet aussi épineux où les mensonges protègent la vérité qui dissimule les mensonges dans l'intérêt supérieur dont on ne sait plus trop quoi. Une bonne nouvelle, toutefois, pour les sceptiques qui, malgré l'évidence de si nombreux phénomènes ovnis, persistent à n'y voir que des histoires à dormir debout. C'est leur droit le plus absolu. Ils peuvent replonger dans leur sommeil de plomb. On a récemment appris, par exemple, que la photo emblématique de la vague belge prise à Petit Rutschen, près de Liège, le 4 avril 1990, cette photo d'une qualité exceptionnelle au demeurant, et qui avait fait le tour du monde, était un faux. De l'aveu même de son auteur, Patrick Maréchal, un tourneur-ajusteur qui voulait juste jouer un bon tour à ses amis. À lui, évidemment, on n'a pas demandé de prouver ses dires. Ce cliché que plusieurs experts éminents, comme le professeur André Marion de l'Institut d'Optique d'Orsay, avaient certifié sans trucage, voilà que le génial faussaire belge affirme en 2011 qu'il représentait en réalité 4 ampoules installées dans sa cuisine sur un triangle en polystyrène de 60 cm de côté. « J'ai tenu compte des formes que tout le monde voyait », explique-t-il. Tous les témoins qui avaient observé l'OVNI dans le ciel, y compris les militaires belges, l'avaient reconnu sur la photo de Maréchal. « Je n'ai pas rêvé », se réjouissait l'un d'eux. Ainsi, se vérifie, une fois encore, une des constantes du dossier OVNI. Le vrai engendre le faux, et inversement parfois. Je pense au survol des centrales nucléaires françaises et belges à plus de 30 reprises fin 2014 et début 2015. Ah oui, c'est tout frais, ça. Un survol imputé à des drones, dont aucun système de surveillance n'a détecté l'approche, et qu'il a été impossible d'intercepter officiellement. Mais de qui se moque-t-on ? Sachant que ces drones, au dire des témoins oculaires, ne seraient pas d'une taille inférieure à 2 mètres de diamètre, on a un peu de mal à imaginer des gamins blagueurs téléguidant leurs petits jouets paro pour se lancer des défis sur Internet. Bruno Combi, ingénieur en génie nucléaire, a déclaré sur BFM TV qu'il pouvait s'agir de drones terroristes, cartographiant les centrales afin de préparer un attentat, non pas sur les réacteurs, mais sur les transformateurs, ce qui provoquerait un clash électrique aux conséquences désastreuses sur l'économie. Et le gouvernement ? L'armée laisserait faire ? Sans tentative d'interception ? Non mais là on rêve. Le 20 janvier 2015, le directeur de la centrale nucléaire du Blayais, survolé le 13 octobre 2014, s'est montré rassurant devant la presse. Il dit ceci. Ici, on n'a pas vu de drone, hein. On a vu un ovni. Et il n'y a eu aucun impact sur la sécurité de nos sites. Pour une fois, serait-on tenté de dire, quand on apprend dans la même conférence de presse que la centrale du Blayais a connu en 2014 plusieurs incidents et erreurs graves, comme la détection tardive d'un robinet inétanche sur un circuit de sauvegarde, la remise sous tension inappropriée d'un tableau électrique, ou les traces de contamination externe au niveau du visage d'un intervenant. Oui, on peut s'interroger. Sachant que la dite centrale non concernée par la fermeture du réacteur prévu par la loi de transition énergétique est repartie pour au moins 10 ans, on en viendrait à se demander si les ovnis, non contents de montrer qu'ils désapprouvent nos armes nucléaires, ne souhaiteraient pas attirer notre attention sur les failles sécuritaires et les dangers potentiels de nos installations civiles. Cela fait penser à notre événement qui a fait date. Tchernobyl. À Tchernobyl, en 1996, les apparitions d'engins mystérieux signalés par de nombreux témoins un mois avant l'explosion de la centrale, furent classés sans suite, évidemment. En revanche, on eut beaucoup de mal à cacher à la population la présence d'un ovni qui, d'après une centaine de survivants, resta 6 heures en sustentation au-dessus du 4e générateur de la centrale. Celui-là même qui, suite à une erreur humaine, fut détruit par de la vapeur surchauffée. Notez bien ceci. Si l'explosion avait été totale, les 180 tonnes d'uranium enrichi dans le réacteur auraient rayé de la carte la moitié de l'Europe. Des extraterrestres, comme l'ont affirmé certains, ont-ils contribué à réduire la catastrophe en un simple souffle thermique ? Qui sait ? Tous les fantasmes sont possibles. Mais l'affaire est très sérieuse. Entre les terroristes fantômes et les secouristes venus de l'espace, il est peut-être temps de définir nos priorités en termes de panique organisée, ou de sécurité nucléaire. Ainsi s'achève notre petite enquête ufologique et la relation évidente entre certaines apparitions mystérieuses et nos centrales nucléaires. Comme je le disais tout à l'heure, cela peut faire froid dans le dos ou quelque part nous réjouir dans leur fonction, entre guillemets, de gardien de la paix. Peut-être l'avons-nous déjà échappé belle. Nous n'avons pas tous les rapports. Oh, je sais, peut-être, vous qui nous écoutez, certains sceptiques convaincus vont nous dire ouais, tout cela c'est des fadaises, et vous allez ranger rapidement cette émission dans la catégorie loufoquerie évidente. Si vous êtes vraiment convaincu, par contre, vous demeurez un petit peu sourcilleux et interrogatif, comme moi. En tout cas, c'était une histoire tout à fait extraordinaire, non ? Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres histoires, d'autres nouvelles, tout à fait aussi extraordinaires. Portez-vous bien. Allez, ciao, et surtout, les petits lapins, dormez bien les petites belettes.
plus.